c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, en el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulomiers-Chamiers et aussi par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Cette semaine, nous avons vous parlé de Nicaragua, aussi un modèle Bukele, vous allez découvrir tout ça, sur l'Équateur, avec beaucoup de problèmes aussi, le Brésil, le Guatemala, et un livre que peu de monde connaît, très peu de monde connaît, un livre maya. Mais avant, je voulais vous signaler qu'il y a quelqu'un ici en Dordogne, en Périgourdin, qui s'est autoproclamé plus ou moins lieutenant général du royaume d'Araucanie, en mémoire de l'action d'Antoine de Tounens, connu aussi dans mes livres d'histoire, quand il y a tellement de au Chili. Et je vais vous livrer rapidement ce qu'avait dit le consul général de France à Valparaiso, Henri-Nicolas de Cassotte, qui n'y ménageait pas du tout son compatriote, donc Antoine de Tounens, dans ses rapports à Paris. Et il avait écrit « Cet individu semi-comique, semi-sérieux, qui affecte dans ses démarches la plus grande gravité, et une réserve étudiée, a habité parmi les tribus indiennes de l'Araucanie, dont il s'est déclaré roi sous le nom d'Aurélie Antoine Ier, en faisant reconnaître son autorité par quelques caciques isolés grâce à de larges et généreuses libations. Tout le monde riait des prétentions peu communes de Sieur de Tounens, et les journaux faisaient des colibés sur ses allées venues dans les terres des Araucans. Le rôle qu'il s'est donné est probablement le résultat d'un cerveau malade. » Voilà donc ce qui, apparemment, le lieutenant général des Araucans ici à Périgueux essaie de parler et de défendre le peuple araucan. Mais je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de Nicaragua.
Tremplin des migrants vers les États-Unis. Managua voit dans les flux venant du continent, mais aussi d'Afrique et d'Asie, une manne financière et un moyen de gêner Washington. Voilà plus d'un an qu'une route migratoire a pris son essor pour des Sénégalais désireux de rejoindre les États-Unis. Ils réservent des vols à destination de Managua au Nicaragua, puis remontent l'Amérique centrale par la voie terrestre jusqu'à leur destination finale. Samir a rejoint les États-Unis à l'automne 2023. Ce Sénégalais de 29 ans a atterri à Managua le 30 septembre et est entré en Arizona 12 jours plus tard. Aujourd'hui, il est hébergé chez un compatriote dans l'Ohio. Samir a longtemps voulu se rendre en France, mais la situation n'est pas facile, surtout quand tu n'as pas de papier. indique ce jeune diplômé de géographie. Samir a déboursé près de 7000 euros pour son voyage, qu'il a réalisé en avion, mais aussi en bus, en voiture, en pirogue, pour remonter l'Amérique centrale et le Mexique. Depuis 3 ans, le Nicaragua est devenu un tremplin pour ces migrants, en particulier ceux qui veulent éviter la traversée du territoire de jungle du Darién entre la Colombie et le Panama. Le régime de Daniel Ortega, président du Nicaragua, a vu dans ce flux un moyen de remplir les caisses de l'État, mais aussi une arme de politique étrangère contre les États-Unis, qui lui ont imposé de nombreuses sanctions ces dernières années.
Oui, et on peut ajouter qu'une partie de ces migrants n'est fait que passer par l'Europe, mais depuis les mois d'août de l'année dernière, la situation dans l'aéroport de Madrid-Barajas, principale hub de correspondance avec l'Amérique latine, est chaotique. Selon les syndicats policiers, près de 450 personnes s'y trouvaient retenues fin janvier dans des salles de rétention. Et aussi en France, la police aux frontières a, elle aussi, assisté à l'essor de ces routes migratoires par le biais notamment des candidats originaires d'Asie. Rythme brésilien, et vous êtes bien le goût de l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons en parler, Béatrice va nous signaler le modèle Bukele.
Qui fait école en Amérique latine. Plusieurs États s'inspirent des modèles drastiques du président du Salvador contre les gangs. Des dizaines de détenus, le corps couvert de tatouages, en caleçon, assis par terre en rang serré, mains sur leur crâne rasé. Le président du Salvador, Nayib Bukele, a pris l'habitude de diffuser ses mises en scène dans les prisons de son pays pour promouvoir sa politique de main de fer contre les gangs. En janvier dernier, pourtant, ces images ne provenaient pas du Salvador, mais d'Équateur. Après l'explosion de violence qui a secoué ce pays entre le 8 et le 10 janvier, son président Daniel Noboa a adopté les mesures drastiques copiées sur celles de son homologue centra-américain. État d'urgence, militarisation des rues et des prisons, arrestation de centaines de jeunes tatoués, construction de centres pénitentiaires de haute sécurité. Le président salvadorien, Nayib Bukele, donc, est de fait une référence dans toute la région. Au Paraguay, le président Santiago Peña a reconnu s'être inspiré de Bukele en lançant fin décembre 2023 une opération militaire dans la prison d'Asunción avec les mêmes images de détenus en caleçon. En mars 2022, et face à une sanglante vague d'homicides, le président Bukele avait décrété un régime d'exception et déclaré la guerre aux gangs. Le résultat est sans appel. Les rues ont été pacifiées et la population a pu renouer avec une vie normale. Pas étonnant dans ce contexte que de nombreux dirigeants rêvent de dupliquer son modèle.
Oui, le problème c'est que les dérives sont nombreuses. Détention arbitraire, audience des centaines de prévenus à la fois, traitement inhumain. Donc on réclame tout cela l'organisme des droits de l'homme. Dans notre émission, nous allons parler maintenant de l'Équateur.
Oui, qui choisit la manière forte contre les gangs. À Guayaquil, premier port d'exportation de la cocaïne, la population applaudit le recours à l'armée. Une dizaine de camions militaires sont garés depuis l'aube devant l'entrée de la prison du littoral. Des tireurs d'élite sont postés sur le toit d'un des bâtiments. La crise sécuritaire sans précédent que traverse l'Équateur a démarré dans les prisons du pays. Elle s'est enquistée à Guayaquil. Au bord de l'eau, les gigantesques grues et les montagnes de conteneurs disent le dynamisme du port, le troisième d'Amérique latine et le premier pour la cocaïne. L'Équateur n'en produit pas, mais il exporte à grande échelle celle qui vient de ses voisins colombiens et péruviens. Les rivalités entre gangs sont à vif. Près du tiers des homicides commis dans le pays en 2023 l'ont été dans le port de Guayaquil, où vivent 2 600 000 et des 18 millions d'Équatoriens. Au pouvoir depuis 2 mois, le jeune président, 36 ans, Daniel Noboa, a déclaré la guerre aux gangs criminels qui sévissent dans le pays. En janvier, la fugue d'un chef de gang déclenche des mutineries dans les prisons du pays. Les détenus prennent en otage plus de 150 gardiens de prison. À Guayaquil, des hommes lourdement armés envahissent le plateau d'un journal télévisé. Le lendemain, le président Noboa décrète que le pays vit un conflit armé interne et proclame l'état d'urgence. Il charge l'armée de reprendre le contrôle des prisons et de ramener l'ordre. Pendant 3 jours, les habitants de Guayaquil se sont terrés chez eux. La vie, le commerce ont peu à peu repris leurs droits.
Et quand le président Noboa est dans la rue, et quelqu'un lui a crié « Allez-y, président, tuez tous les bandits !» Thank you. Et nous allons parler maintenant d'un grand pays où il y a les crimes organisés, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, c'est au Brésil. Le président Lula est complètement dépassé par l'ascension du crime organisé. À Rio de Janeiro, la criminalité ne connaît pas de répit. Le chef de la principale milice, groupe paramilitaire criminel fondé souvent par d'ex-policiers, s'est livré à la police par crainte de se faire assassiner par une milice rivale. En octobre 2023, trois médecins qui participaient à un congrès dans un quartier chic de la ville ont été assassinés par des miliciens. Suite à la mort d'un milicien lors d'une opération policière, sa milice a en représailles incendié 35 bus et un train. Le président Lula a annoncé le déploiement de 3700 militaires dans les principaux ports et aéroports du pays, point d'entrée du trafic de drogue et d'armes. La multiplication des épisodes de violence à Rio de Janeiro témoigne de la progression du crime organisé qui contrôle la moitié du territoire de l'État. À Bahia, les factions criminelles progressent en Amazonie. Frontalière de plusieurs pays producteurs de cocaïne, la région est devenue le principal carrefour du trafic de drogue en Amérique latine, constate le chercheur Sergio Lama. Faute de progrès notables, la lutte contre le crime organisé est devenue le talon d'Achille du gouvernement, analyse André Roman, directeur de l'Institut de sondage Atlas Intel.
Et nous allons revenir à Guatemala. On va parler aussi d'un livre, un extrait d'un livre de Martin Caparrós, un livre très complet sur l'Amérique latine actuelle, qu'il a appelé « Niamérique » avec « ñ » parce qu'il a pris la « ñ » d'Espagne. C'est une lettre qui n'existe pas en français. Donc, ça s'appelle Niamérique et il nous dit quoi, Béatrix ?
Il nous dit Chichicastenango est une ancienne ville coloniale entre montagnes vertes et volcans silencieux. La ville, la plus peuplée de Quiché, la région la plus maya du Guatemala, et sa renommée vient du fait que c'est là, il y a trois siècles, que le Popol Vuh a été transcrit pour la première fois et de nos jours de l'existence de son marché.
Nous allons parler par la suite des Popol Vuh.
Oui. Son marché est le plus traditionnel et se tient deux fois par semaine, les jeudis et les dimanches. Ces jours-là, des quantités de gens y affluent. Aujourd'hui, jeudi, très tôt, il est noir de monde. Ce sont des milliers et des milliers de personnes qui achètent et vendent. Ici, ce qui est vendu a été produit localement, que ce soit en général les personnes qui l'ont fabriqué qui le vendent, et que aussi les vendeuses s'habillent d'une manière différente. Le marché de Chichicastegnango est un refuge, un vestige des marchés d'avant l'uniformisation de Banin Inchana, d'une culture que le monde dévore peu à peu. Tout se resserre et se contorsionne. Il n'est pas facile d'avancer dans ces rues débordant de vendeurs et de vendeuses, d'étals, de chiens et d'une marée de corps. Presque toutes les femmes arborent leurs robes traditionnelles, distinctives, de torrents de couleurs, portées par leur grand-mère et encore d'autres grand-mères, rouges, noires, dorées, l'élégance, quoi. Les hommes, en revanche, ont la tenue des pauvres globalisés, jeans, baskets, casquettes. La tradition, on dirait, repose sur les femmes qui continuent à porter leur passé sur leur corps ou, pour le dire autrement, qui restent liées au passé, à la distinction.
Vous avez entendu parler des Popol Vuh, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que c'est très très peu connu. C'est une sorte de vivre des peuples mayas.
Traduit par Livre du Conseil, est un texte mythologique maya rédigé en Quiché à l'époque coloniale. C'est le document le plus important dont nous disposons sur les mythes de la civilisation maya. Il s'agit d'une sorte de Bible maya dont le contenu, remontant à la période précolombienne, relate l'origine du monde et plus particulièrement du peuple Quiché, l'une des nombreuses ethnies mayas dans le centre de rayonnement se situait dans la partie occidentale du Guatemala actuel. La version du livre du Conseil des Mayas Quiché fut rédigée entre 1554 et 1558, soit une trentaine d'années après la conquête espagnole. Cette version anonyme était en langue Quiché. Le manuscrit ne fut découvert par les Européens qu'au début du XVIIIe siècle. Le dominicain Francisco Jiménez, qui réussit à obtenir des Quiché de Santo Tomás Chulia, actuel Chichicastegnango, en fit en 1701 une copie accompagnée d'une traduction. Voici les premières lignes du livre traduites en français. C'est la racine de l'ancienne parole. De ce lieu nommé Quiché, ici nous écrirons. Nous installerons l'antique parole, l'origine, le commencement de tout ce qui a été fait dans la nation Quiché, pays du peuple Quiché.
C'est pas facile à comprendre tout ça, n'est-ce pas? Et d'autant plus que Chichicastegnango, on revient, on a parlé au début. Avec l'autre, dans le livre de Martín Cavarros, et on a parlé de Chichicastegnango, et tu viens de dire que c'était une ancienne ville coloniale. Et c'est là qu'on a justement réussi à obtenir des Quiché de Santo Tomás, actuel Chichicastegnango, le manuscrit. Voilà donc ce que nous pouvons dire de ce livre sacré. De Maya. Thank you. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des informations sur l'Amérique latine. Et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias. Hasta pronto.